Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, Maëlys André, réalisée par Anna Holweg et mise en onde ce matin par Amine El-Mansarni. Deuxième temps de notre semaine consacré au journalisme et au nouveau combat de l'information. Hier, nous parlions des violences subies par les journalistes. Aujourd'hui, place aux éditeurs de presse dans la tourmente du web. Réguler les GAFAM, les défis de l'information démocratique, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
En attendant qu'il y ait des résultats concrets à l'OCDE, l'Europe doit ouvrir la voie. Et c'est bien ça la question politique. Est-ce que l'Europe veut ouvrir la voie sur la taxation des géants du numérique ? Et ouvrir la voie aussi sur toutes les questions démocratiques, économiques, financières que posent les gens du numérique, ou est-ce qu'elle veut être derrière ?
Bien sûr, nous sommes pour que Facebook et Google continuent, mais seulement qu'ils nous payent. La chose que nous demandons est qu'ils nous payent pour qu'on puisse continuer à développer l'information.
Je suis optimiste quant à l'avenir du journalisme, l'avenir de l'information, l'avenir des sociétés ouvertes, mais seulement si nous continuons à avancer, si nous faisons face aux défis en utilisant notre technologie pour aborder ces questions.
On entendait à l'instant Richard Dzingrasso, dirigeant de Google, très optimiste quant à l'avenir du journalisme, à condition bien sûr qu'on utilise ces technologies. Sami Katz également, journaliste membre de l'AFP, qui lui demande à ce que Facebook paye les journalistes pour qu'ils continuent de produire de l'information. Et enfin Bruno Le Maire, menaçant d'une taxe nationale faute de taxe européenne. La menace a été mise à exécution puisque hier le ministre français des Finances a annoncé qu'il y aurait une taxe GAFAM dès le 1er janvier prochain. Directive sur le droit d'auteur, règlement des données personnelles, taxes GAFAM, les tentatives de réguler les géants américains du web ne manquent pas. Il est vrai que l'élection de Donald Trump, le scandale Cambridge Analytica et plus largement les crises des opinions publiques au sein de l'Union européenne obligent à réfléchir sur l'état des médias dans nos démocraties numériques. Observer le modèle économique de la production de contenu, lever le voile sur les dépendances économiques qui se sont tissées entre éditeurs de presse et plateformes en ligne, analyser les implications politiques de ces relations à risque souvent, c'est l'objectif de ce matin. On va tenter de comprendre ce que les GAFA, les GAFAM font à l'information et au journalisme et regarder comment il est possible d'injecter peut-être un petit peu de régulation dans le système. Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous. D'abord, Franck Rebillard, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Et puis co-auteur avec Jérôme Guibert et France et Fabrice Rochelandais de Médias, Culture et Numérique, qui était paru chez Armand Collin. Également avec nous, mais en duplex de Toulouse, Nikos Mirnaios, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes vous maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulouse 3 et puis auteur de Les GAFAM contre Internet, une économie politique du numérique qui était paru aux éditions INA l'année dernière. Alors, on va commencer avec l'annonce d'hier. Franck Rebillard, le ministre des Finances Bruno Le Maire, qui a tenu une conférence, qui annonce que la taxe s'appliquera en tout état de cause au 1er janvier 2019 et portera donc sur l'ensemble de l'année 2019 pour un montant que nous évaluons à 500 millions d'euros. Que vous inspire cette annonce ? Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Il l'avait dit, Bruno Le Maire, si l'Europe n'arrivait pas à se mettre d'accord, alors il y aurait une taxe nationale. Ça y est, on s'est enfin mis d'accord avec nous-mêmes, j'allais dire, pour taxer les géants du numérique. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça a été long.
Oui, alors ça fait quand même plusieurs années que cette question de la taxation des GAFAM, même si on ne les appelait pas encore comme cela à l'époque, se pose. Là, il y a une annonce un peu symbolique qui est donnée puisque ce chiffre quand même de 500 millions d'euros est étonnamment rond. Donc on se demande dans quelle mesure elle va se réaliser concrètement. Et comme le diable souvent se loge dans les détails, il faudra observer à l'avenir ce que seront les réelles mesures.
Bah justement, posons la question à Nikos Mirnaios, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'interrogations sur combien finalement génèrent ces fameux GAFAM en termes de chiffre d'affaires. Il y a des fourchettes absolument incroyables. Par exemple, si on regarde l'exercice de Google France sur l'année dernière, officiellement, c'est 325 millions, mais on nous dit qu'en fait, le chiffre d'affaires serait bien plus élevé. On nous parle de 2 milliards d'euros, par exemple. Alors, la question qui se pose, Nikos Mirnaios, c'est 500 millions, c'est quoi ? 500 millions de taxes pour les GAFAM, ça correspond à quoi ?
Eh bien, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que cet axe montre l'impossibilité de l'État français à l'heure actuelle de définir en fait les profits que ces entreprises font en France, puisqu'il s'agit bien de taxer le chiffre d'affaires, donc avec un pourcentage assez faible de 3%, ce qui signifie qu'on est dans l'incapacité totale aujourd'hui de savoir quels sont les réels profits pour l'imposer correctement, comme toute autre entreprise qui est fait en France.
Attendez, et ça c'est ça... un peu embêtant, parce qu'on est censé lever une taxe pour le 1er janvier, là.
Oui, ben je pense qu'on va se fier à des déclarations que plus ou moins volontaires de ces acteurs qui vont déclarer un chiffre d'affaires, mais dont on n'aura pas le moyen de vérifier s'il correspond à une certaine réalité, puisque le montage financier de ces entreprises sont très complexes. Ils utilisent différentes méthodes. Et notamment, ils misent en fait sur le dumping fiscal au sein de l'Union européenne, avec des pays comme l'Irlande, le Luxembourg, qui veulent bien accueillir leur siège en leur proposant des taxations très faibles.
Franck Rebillard, puisqu'on n'est pas tout à fait capable de savoir exactement quel est le chiffre d'affaires de ces entreprises, de ces fameux GAFAM, est-ce qu'il faut comprendre qu'en fait 500 millions, c'est ce que sont prêts à donner les GAFAM aux impôts ?
Non, ça je ne pense pas. Là, je pense que bon, on est quand même dans une situation contemporaine très tendue. Et donc, encore une fois, je pense que le...
On ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas eu de discussion, si vous voulez, entre les finances et les GAFAM.
Non, ce qui est plutôt à souligner, c'est que si cette décision vient d'un seul État national à l'échelle de l'Union européenne, elle aura quand même peu de chances d'être véritablement productive. Pour la raison qu'a indiqué mon collègue à l'instant, c'est que il y aura sans doute la volonté pour ces entreprises de se réfugier comme elles l'ont fait soit à Dublin, soit à Luxembourg. Effectivement, les législations fiscales sont bien moins contraignantes. Et puis, ce qu'il faudrait, en fait, c'est une démarche véritablement commune au niveau de l'UE. Alors, c'est vrai qu'il y a eu cette démarche pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui autour du droit d'auteur, avec la directive sur le droit d'auteur. Mais pour ce qui est de la taxation des GAFAM, j'ai envie de dire de façon plus générale, là, je ne crois pas qu'il y ait encore vraiment de consensus.
Il y a eu un préaccord, la France et l'Allemagne, Nikos Mirnayos, sur cette taxe européenne. On voit à peu près à quoi pourrait ressembler un accord sur une taxation des GAFA à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires sur les publicités en ligne. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore de certitude que cette taxe sera effectivement retenue en l'état. Qu'est-ce qui bloque encore? Et de manière plus générale, pourquoi est-ce que l'Union européenne est incapable de se mettre d'accord sur cette taxe GAFA?
Avant de vous répondre à ça, je vais revenir juste à votre question précédente, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Franck Rebillard. Oui. Je pense qu'effectivement, cette somme, en fait, c'est le résultat. Alors, j'ai pas d'informations, je suis pas journaliste, mais c'est une supposition que je fais. Je pense que c'est ce chiffre et le résultat, justement, des négociations directes entre l'État français et ses entreprises pour savoir ce qu'ils seraient prêtes à concéder. J'ai dit ça parce que l'État français a déjà tenté la manière forte. Je vous rappelle qu'en 2017, il y a eu quand même un redressement fiscal qui a été adressé à Google d'une hauteur de plus d'un milliard d'euros. Donc le fisc français a réclamé un milliard d'euros à Google. Sauf que ce redressement fiscal a été annulé par le tribunal administratif parce que légalement, il était impossible de prouver que Google dispose d'un établissement stable en France. Donc on voit bien que l'État français a tenté la manière forte et qu'il n'a pas réussi. Donc si aujourd'hui le ministre de Finances dit qu'il va pouvoir obtenir 500 millions et il déclare ça publiquement, à mon avis, c'est qu'il a déjà discuté de la question.
On a déjà parlé. Et alors sur la taxe européenne,
la taxe européenne. Ben parce que en fait chaque pays européen défend ses propres intérêts. On a bien su que par exemple l'Allemagne était réticente sur certains aspects de cette taxe parce qu'elle a peur de sa propre industrie, notamment automobile. Chaque pays finalement essaye de défendre ses propres intérêts. Les pays qui accueillent les sièges européens de ces entreprises, comme l'Irlande par exemple, je vous rappelle que l'Irlande a refusé 11 milliards, je pense, de taxes que Apple devait lui rendre, justement pour ne pas se fâcher avec cette entreprise et ne pas perdre le siège de cette entreprise européenne qui est basée à Dublin. Donc on voit bien qu'en fait on est dans une logique de concurrence intra-européenne, une concurrence fiscale qui rend en fait quasi impossible une règle commune. Et c'est sur ce jeu-là que se loge finalement qu'utilisent ces acteurs pour éviter l'impôt.
On pourrait aussi renverser les choses, Franck Rebillard, et dire que s'il y a cette concurrence, c'est aussi parce qu'on est dans un cas où, en fait, on a un vide juridique dans le droit européen sur ces questions-là.
Oui, sans doute. Alors, bon, moi, je suis plutôt sur les...
Vous y croyez, vous, à la taxe européenne? Et à quelle échéance?
Encore une fois, je pense qu'elle sera vraiment, vraiment, vraiment contraignante lorsque l'ensemble des États de l'UE l'auront adoptée. Mmh. Et alors peut-être que ça se fera de façon plus soudaine qu'on ne le pense, mais je pense que ça va se faire plus progressivement que cela, quoi. Voilà, par étapes, je pense.
Alors, la semaine dernière, dans une interview au Guardian, il y a un responsable de Google qui a laissé planer la possibilité d'une fermeture de Google Actualité. C'est ce service de Google que beaucoup utilisent, qui agrège des articles de presse. En cause, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a ce projet de directive européenne sur le droit d'auteur, qui crée notamment ce qu'on appelle un droit voisin au droit d'auteur pour les éditeurs de presse. Il faut essayer d'expliquer, peut-être, on va commencer avec vous, Franck Rebillard, ce que pourrait changer cette directive sur le droit d'auteur, et qu'est-ce qui fait que les GAFAM, et là en particulier Google, ripostent immédiatement à ce qu'ils considèrent être une menace pour eux.
Alors, ce qui concerne directement les éditeurs de presse dans cette directive, c'est l'article 11. D'ailleurs, petite parenthèse, l'article 11, c'est aussi le numéro de l'article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui impose d'une certaine façon la liberté d'expression. Mais je ne pense pas que les législateurs européens l'aient fait volontairement. Et donc, dans cet article 11 de la directive européenne, il est indiqué que désormais, les éditeurs de publications de presse pourront, je cite, « bénéficier d'une rémunération juste et proportionnée de la part des prestataires de services de la société de l'information ». Alors pour le dire plus concrètement, ça signifie que si cette directive est complètement adoptée et transposée dans le droit national, hein, puisque pour l'instant, elle a simplement été votée, adoptée au niveau du Parlement européen.
Mmh. Et chaque Parlement national, je crois, 2 ans, je crois, pour le traduire dans leur propre droit.
Oui, il y a surtout là encore un trilogue avec le Conseil de l'Europe, avec la Commission, hein, pour aboutir à un texte définitif. Donc si, au bout de ce long processus, effectivement, cette mesure était mise en place, concrètement, ça voudrait dire que, par exemple, lorsque un GAFAM, une plateforme, un infomédiaire, comme on pourrait le dire, établit un lien hypertextuel vers un site d'information et que le lien en question propose également, imaginons, une image ou un titre au niveau de l'information, eh bien, dans ce cas-là, il devra, en quelque sorte, rémunérer le producteur original de l'information pour avoir établi ce lien.
Sauf que toute la question est de savoir comment est-ce qu'on définit justement à qui est-ce qu'on rémunère la chose. Et il y a un autre article, et je me tourne vers vous, Nikos Mirnaios, dans cette fameuse directive sur le droit d'auteur, qui est l'article 13, qui impose aux GAFA de mettre en place des outils numériques techniques pour détecter justement des œuvres protégées par le droit d'auteur. Et certaines personnes, c'est le cas par exemple de Guillaume Champeau, qui est directeur éthique des affaires juridiques de Quant, qui est un moteur de recherche alternatif, eh bien lui, il dit que ça va créer une nouvelle barrière à l'entrée pour les concurrents des GAFA. Et il considère qu'en réalité, cette directive, elle pourrait avoir pour effet de renforcer les GAFA. Est-ce que c'est votre avis aussi, Nikos Mirnaios? Est-ce qu'effectivement, cette directive sur le droit d'auteur est forcément une mauvaise nouvelle pour les GAFA? On aimerait que ce soit le cas, parce qu'en fait, c'est quand même un peu le but cherché, quoi.
Alors, si vous permettez, avant de répondre à votre question, est-ce que je voudrais mettre un petit peu en perspective historique cette directive, puisqu'en fait, cette directive, c'est l'aboutissement d'un processus qui est très long et qui date du début des années 2000. On peut aller encore plus loin, en fait, le premier rapport entre les acteurs d'Internet et les acteurs de la presse date des années 80, au moment où des portails comme Protégy, Jenny, ou même au sein du Minitel, on a commencé à distribuer par des dispositifs numériques la presse. Mais à l'époque, tout ça, c'est passé avec des accords gré à gré, multilatéral avec la presse, qui étaient payés donc pour cela. Ce n'est qu'à la fin des années 90 qu'un certain nombre de start-up, et notamment je tiens à faire remarquer que la première start-up à avoir posé cette question, c'était une start-up française créée par Jérémy Bérébi en 99 qui s'appelait Net2One, qui a commencé donc à indexer et à organiser de manière automatique des extraits provenant des sites d'information de presse sans leur demander leur permission. Et déjà à l'époque, les groupements de presse comme le Geste, à l'époque présidé par Philippe Janet, avait déjà compris qu'il allait avoir des risques importants sur 2 points notamment. Le premier point, c'était la question des droits d'auteur. Est-ce qu'un moteur de recherche ou un infomédiaire a le droit d'indexer, de reprendre des bouts de texte en provenance des sites d'information et de l'organiser comme il l'entend sans demander la permission à l'éditeur? Et 2, sur le partage des revenus. À l'époque, il y avait notamment la question du partage des revenus publicitaires et également des informations que que ces intermédiaires pourraient collecter sur les habitudes des lectures. Et donc, cette revendication-là de la mise en place d'un nouveau droit voisin pour les acteurs de presse est une revendication très vieille, mais qui n'aboutissait pas parce que les fronts des éditeurs, disons, étaient très divisés.
Là, elle aboutit, parce que cette directive, elle impose précisément aux plateformes de rémunérer des éditeurs lorsqu'elles référencent leur contenu. Donc, en théorie, ça devrait permettre aux médias d'obtenir une part du gâteau, si je puis dire, des revenus publicitaires en ligne, aujourd'hui captés essentiellement par les GAFA. C'est donc exactement ce qu'on appelle le droit voisin. Mais alors voilà, c'est pas sûr, c'est là où je voudrais vous entendre, c'est pas sûr, c'est-à-dire...
Si vous voulez, la première chose c'est que ça a déjà été fait ça en Espagne, il y a quelques années, et la stratégie de Google en fait c'était de fermer Google News. Donc la menace de Google c'est de dire si vous m'obligez de payer, je vais fermer les services. Donc il y a ce premier point qui est important.
Parenthèse, quelles conséquences pour un média quand il dit je vais fermer Google News?
Eh ben c'est une perte d'audience assez gigantesque en fait.
De quel ordre?
Ça dépend des médias. Il y a des médias qui dépendent à 50, 60, 70% des informés.
Ah oui, d'accord, c'est considérable.
En France, en moyenne, c'est autour de 40%.
D'accord, c'est considérable. C'est considérable. Google. Nikos Mirnaios, je vous en prie, continuez.
Après, sur la question, justement, est-ce que des règles contraignantes sur le droit d'auteur vont bénéficier aux GAFAM plutôt qu'avoir le fait inverse dont vous avez posé? On a un petit précédent. En fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que quand vous tentez d'imposer une régulation très contraignante dans un marché qui a déjà une structure oligopolistique, c'est-à-dire qui est déjà dominé par des gros acteurs, l'effet paradoxal, c'est que souvent cette régulation favorise les acteurs déjà installés. Et on a l'exemple du règlement sur la protection des données personnelles, qui a été mis en place au mois de mai dernier au sein de l'Union européenne, et qui est un bon règlement, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus protecteur que ce qu'on avait auparavant. Mais ce qu'on remarque en fait depuis, avec les reculs, c'est que ceux qui ont tiré un bénéfice de ça, en augmentant leur chiffre d'affaires publicitaire, c'est Google, Facebook et Amazon. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que ces acteurs, ayant une grosse emprise sur les utilisateurs, ils sont en capacité d'avoir plus facilement les consentements des utilisateurs pour la collecte et le traitement des données. Et donc paradoxalement, ces règlements contraignants qui étaient conçus d'une certaine manière contre ces plateformes, en fait, leur permettent d'augmenter leur chiffre d'affaires publicitaire. Donc il y a ce risque, effectivement.
Oui, donc cette directive sur le droit d'auteur qui introduit un droit voisin au droit d'auteur ne règle pas tout. Franck Rebillard, depuis quelques années, il existe des fonds d'aide à la presse. Alors je vais mettre des guillemets qui sont versés par les GAFAM. Plus exactement, les GAFA et notamment Facebook rémunèrent des médias pour produire du contenu sur son réseau social et notamment du contenu inédit. Quelle est l'ampleur de ce phénomène de contenu inédit ou natif, c'est comme ça qu'on appelle ça, proposé par les médias à destination du réseau social? Je voudrais comprendre ce que ça représente en termes économiques. Comment est-ce qu'on met en place justement ce type de partenariat? Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire, si c'est de la subvention, du partenariat. Mais c'est un phénomène qu'on ne connaît pas très bien, Franck Rebillard. Alors essayez de nous éclairer.
Alors ce qu'on peut dire aussi, et là c'est une parenté avec ce que vient de dire mon collègue, c'est que là aussi tout a débuté en France. C'est pas être cocardier que de dire cela, mais effectivement, en 2013, il y a eu un accord qui a été noué entre le président de la République de l'époque, François Hollande, et le dirigeant de Google d'alors, qui était Eric Schmidt. Et cet accord a abouti à la création d'un fonds d'aide à l'innovation numérique dans la presse, le FINP, d'un montant de 60 millions d'euros sur 3 ans. Donc pendant 3 années, Google, par l'intermédiaire d'une association qui était l'Association pour l'information politique et générale, a distribué chaque année à peu près 20 millions d'euros aux éditeurs de presse français.
Mettons ça au regard des subventions publiques, ça représente quoi?
Alors, c'est pas grand-chose au regard des subventions publiques, parce qu'on estime que aujourd'hui les aides à la presse, alors à la fois sous forme d'aides directes comme celle-ci, mais aussi d'aides indirectes, avec par exemple la TVA super réduite à 2,1%, qui est une sorte d'aide fiscale de l'État au nom du pluralisme de l'information et de la diffusion des opinions dans la société, c'est plutôt autour de 1 milliard d'euros. Donc c'est un chiffre colossal. Par contre, les aides directes, et notamment les aides qui sont dédiées au soutien au pluralisme, on est plutôt autour de 30-40 millions d'euros. Donc vous voyez, ces 20 millions, c'est quand même assez important.
C'est 30 millions sur 3 ans.
Voilà, 60 millions sur 3 ans. 60 millions sur 3 ans. 20 millions d'euros par an. Et bon, j'avais produit une petite étude il y a quelques mois qui montrait que lors de ces 3 années, de 2013 à 2016, cette aide de Google, en quelque sorte, est venue se substituer à une aide de l'État. Hein. Donc l'État s'est retiré en quelque sorte, l'intervention publique s'est retirée au profit de Google. Alors ça pose deux questions. La première, c'est que d'une part, ben, on n'a plus vraiment un acteur indépendant qui agit pour l'intérêt général au moment de distribuer les aides, puisque là c'est quand même une entreprise privée qui le fait. Alors avec l'aide d'une association, mais dans le conseil d'administration du fonds, en fait, Google est très très présent. Et puis par ailleurs...
Ça veut dire que c'est Google qui décide combien on va donner à qui?
Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme d'appel à projet. Voilà. Comme on le ferait d'ailleurs pour des subventions publiques, il y a une forme d'appel à projet. Les éditeurs de presse montent des dossiers, ils répondent, et en fonction de cela, il y a un certain nombre de dossiers qui sont choisis, donc des entreprises qui sont aidées. D'accord. Mais les personnes qui décident de l'attribution de ces fonds, je le dis simplement, hein, mais en gros, c'est les représentants de Google, sont les représentants de Google qui ont le pouvoir de décision dans cette affaire.
Si je traduis un petit peu les choses, et Nikos Mirnaios, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais on parle, Franck Robillard parle gentiment d'appel à projet, ce sont en fait des négociations bilatérales en fait.
Moi je pousse
un peu la provocation, hein. Il fait l'amour Franck Robillard, mais je fais exprès Nikos Mirnaios.
Non, mais si vous voulez, en fait, il faut. Je pense que le point de vue doit être un peu plus fin. C'est-à-dire que Google, en fait, n'a pas forcément intérêt à choisir les bons éditeurs, etc. Il lui suffit, en fait, d'arroser, disons, pour le dire un peu grossièrement, la presse avec de l'argent pour cultiver des bonnes relations avec la presse. Il n'a pas besoin de choisir le bon ou le mauvais éditeur. Après, évidemment, il y a des enjeux qui se jouent à des niveaux personnels, à des niveaux stratégiques, sur qui va toucher l'argent. Mais je voulais faire plusieurs remarques, en fait, au sujet de cet accord et de cet argent.
Attendez, ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport de force quand on monte ces partenariats, quand il y a ces appels d'offres.
Oui, alors, évidemment.
Il n'y a pas de rapport de force. Tant pis, on arrose et c'est terminé. C'est pas si simple.
Évidemment qu'il y a des rapports de force, mais je veux dire, il n'y a pas forcément des exclus, si vous voulez. On va essayer d'arranger un peu tout le monde, puisque c'est dans l'intérêt de tout le monde, à la fois des éditeurs, de toucher plus ou moins des sommes importantes, et de Google d'avoir des bons rapports avec tous les éditeurs.
Ouais.
Mais la remarque que je voulais faire, c'est d'abord ce que a dit Franck Rébillard tout à l'heure, c'est très important. L'accord en question a été signé sous les auspices de François Hollande, président de la République. Ça donne quand même la dimension politique de cet accord. Ce n'est pas un accord entre des acteurs des entreprises privées sur un marché. C'est bien un accord validé de manière politique. La deuxième chose, c'est que cet accord a été concédé par Google, enfin cet argent a été concédé par Google pour éviter justement de rémunérer les éditeurs sur la base d'un système de droits voisins, par exemple. Donc c'était une concession pour éviter d'avoir payé l'utilisation des contenus des éditeurs. Et puis un troisième point, c'est que cette dépendance-là, qui est une dépendance financière directe, c'est-à-dire que les éditeurs touchent de l'argent directement de Google, et donc pour certains, dans leur budget, ça représente quand même des sommes importantes. Cette dépendance-là...
Combien ça peut représenter? Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des chiffres, alors si vous en avez, ça m'intéresse.
Ah ben nous aussi, on a des difficultés à trouver ce genre de chiffres.
Non, mais disons qu'il y a des subventions qui se montent à plusieurs centaines de milliers d'euros pour certaines entreprises.
Centaines de milliers d'euros pour un partenariat d'un an.
Oui, enfin une aide d'un an.
Oui, une aide d'un an.
Après, ça dépend, si vous voulez, de la taille du média aussi et de son chiffre d'affaires pour avoir. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette dépendance, qui est quand même une dépendance financière directe, s'ajoute à à plein d'autres dépendances. On a parlé tout à l'heure de la dépendance au niveau de la distribution, c'est-à-dire que les éditeurs de presse sont obligés de se conformer aux règles des GAFAM pour pouvoir toucher un public, puisque en fait la plupart des gens passent par ces plateformes pour accéder au site d'information. On a également une dépendance au niveau des outils. Aujourd'hui, plein des rédactions utilisent allègrement les outils de Google, mais aussi de Facebook pour fabriquer de la vidéo, pour diffuser de l'information, pour mesurer leur audience, etc.
Et donc on est moins concentré sur l'essentiel qui reste la production d'information. Donc ce que vous ne dites pas, mais que moi je dis, mais que vous dites en creux, c'est qu'il y a une dégradation générale de la qualité de l'information qui est proposée. C'est ça que vous voulez dire. Franck Robillard.
Oui, non, ce que je voulais ajouter, c'est que, par exemple, si on prend à nouveau ce cas-là de 2013, mais je l'étendrai ensuite de façon plus large, c'est qu'il y a quand même une forme de discrimination dans les acteurs qui sont aidés, puisque, par exemple, l'Association pour l'information politique et générale, elle était essentiellement tenue par les grands acteurs de la presse quotidienne et magazines françaises, les grands quotidiens nationaux et les grands magazines de news français. Et puis par ailleurs, ce qu'il faut vraiment indiquer, c'est qu'il y a une contrepartie à ces aides, hein, ce qui n'est pas le cas lorsque l'État donne une aide. Ici, il y a une contrepartie, c'est que souvent Google va inciter à utiliser ces outils en finançant les projets qui sont donnés. Donc il y aura aussi une forme de prime aux projets qui seront montés pour utiliser des outils Google.
Est-ce qu'il y a aussi une prime dans les sujets traités, dans les formats proposés, souvent des formats vidéo?
Alors là, c'est plus...
Est-ce qu'on vous dit il faut des sujets, des vidéos d'une minute trente, et si vous faites une vidéo sur je ne sais pas quoi, des questions liées à des territoires ou je ne sais rien, transport, aménagement, j'en sais rien, est-ce qu'on vous dit ça? Est-ce que ça va jusque-là?
Alors c'est très variable hein, quand même. Puisque bon, il y a des orientations générales qui sont données, mais qui servent plutôt à suivre les tendances de la production journalistique.
Ah oui, c'est ça. Donc c'est la tendance qui fait l'information. Oui. Ah
ben, mais ce que je voulais ajouter rassurant. Quand même, c'est que cette initiative qui a été prise en France, elle a servi de modèle pour une initiative qui a été élargie à l'échelle européenne, puisqu'en 2015 a été créée la Digital News Initiative, cette fois avec 150 millions d'euros, donc 5 fois plus que l'aide française, et au niveau de l'Union européenne. Et puis, en mars 2018, cette fois au niveau mondial, Google a créé la Google News Initiative, et cette fois avec 300 millions de dollars au niveau mondial. Donc là, on arrive quand même à des montants qui sont extrêmement importants pour l'économie des médias en général.
Nikos Smirnaios, réaction, et puis ensuite, je voudrais vous poser une question à propos de l'algorithme de Facebook qui a changé il y a quelques temps, mais je vous en prie.
Oui, je pense que ce que Franck Rébillard a dit est important parce que, en fait, ça nous rappelle un petit peu le début de l'implication de ces acteurs dans l'information. Au début des années 2000, quand Google est rentré dans ce marché, et puis Facebook et les autres, la promesse c'était d'augmenter le pluralisme. L'idée c'était que, à travers nos portails, à travers nos dispositifs techniques, vous allez avoir accès à une plus grande pluralisme, diversité de sources de ce que vous pouvez avoir dans le monde physique, on va dire. Or, ce qu'on observe et ce qu'on vient de dire va dans ce sens-là, c'est qu'aujourd'hui, ces acteurs, les GAFAM, établissent des partenariats ou des alliances, si vous voulez, avec les acteurs des médias les plus importants, les plus puissants, à la fois parce que ces acteurs ont des moyens de négocier directement avec Google, ce que n'ont pas, par exemple, des petites start-up qui sont de l'information qui sont complètement dépendantes, et aussi parce que Google a intérêt à mettre en avant des marques pour, disons, renforcer le côté, on va dire, confiance du public. Et de cette façon-là, on observe que l'information qui vient de ces plateformes, l'exemple d'Apple News, c'est tout à fait remarquable dans ce sens aussi, se concentre à un petit nombre de sources, on va dire autorisées, en excluant tout un tas d'autres sources qui, justement, amènent le pluralisme et la diversité de l'information.
Encore un tout petit mot, Franck Rebillard, sur justement la question de l'algorithme avant de retrouver une nouvelle invitée, parce qu'il y a quelques mois, Facebook a changé précisément son algorithme, ce qui avait eu une incidence visiblement sur les médias, quelque chose qui les avait peut-être obligés aussi à s'adapter. Deux questions très naïves. Pourquoi ce changement d'algorithme? Pour quelle raison? Et qu'est-ce que ça a changé concrètement pour les médias?
Alors, parce que Facebook a connu un petit creux hein, il y a quelques mois. Son service était moins utilisé. Certains membres quittaient le réseau social numérique. Et une des interprétations qui était faite, c'était que finalement, l'information qui apparaissait sur le fil d'actualité, le fameux newsfeed des membres de Facebook, était en quelque sorte de plus en plus phagocytée par les pages de médias, par les informations en provenance des médias ou des entreprises, et on y voyait de moins en moins les posts ou les recommandations des membres de son entourage proche, son entourage familial, amical, professionnel, etc. etc.
D'accord.
Donc c'est essentiellement pour cela, et donc Facebook a modifié son algorithme pour faire en sorte que apparaissent désormais de façon prioritaire et en plus grand nombre justement les données, les posts en provenance de l'entourage.
Ça
proche.
Veut dire que les médias ont perdu en visibilité?
Tout à fait. Et alors la conséquence, c'est que les médias qui étaient les plus dépendants à Facebook, notamment pour leur audience, les médias qui en fait tiraient parfois jusqu'à 60-70% de leur audience en provenance de Facebook, ben, d'un coup ont vu leur audience complètement baisser.
Et voilà, c'est ça, la trop grande dépendance. Vous voulez réagir, Nikos Smirnaios? Je vous entends.
Oui, ça c'est un sujet très important. Ce que je qualifie, moi, en fait, d'hétéronomie sur le journalisme, c'est-à-dire une règle qui vient de l'extérieur du champ journalistique et qui s'impose à lui. Avec Franck Rébillard, on a fait des travaux il y a déjà une dizaine d'années où on l'avait montré que l'algorithme Google News favorisait par exemple les rédactions qui pouvaient produire beaucoup de contenu et donc indirectement favorisait un certain productivisme, ce qu'on appelle le bâtonnage des dépêches, produire beaucoup de contenu sans trop se soucier de la qualité. Aujourd'hui, on a un autre exemple avec Facebook qui est assez assez révélateur. Quand Facebook a donné, a communiqué des chiffres sur les visionnages des vidéos sur Facebook, il y a eu d'énormes chiffres annoncés, etc. Donc plein des rédactions, notamment aux États-Unis, se sont complètement réorganisées pour pouvoir produire beaucoup de vidéos.
Et puis après, on leur a dit que c'était très surévalué.
Et après, on leur a dit que les chiffres étaient faux. Or, entre-temps, les rédactions avaient licencié des gens, avaient embauché d'autres gens, étaient restructurées dans ce sens-là. Donc on voit bien qu'il y a un effet performatif des algorithmes dans le fonctionnement du journalisme et des rédactions.
On est avec vous, Nikos Mirnaios, en duplex de Toulouse, et vous également, Franck Rebillard, autour de cette semaine consacrée au nouveau combat du journalisme aujourd'hui, réguler les GAFA, les défis de l'information démocratique. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on va prendre la direction des États-Unis. Les États-Unis où les attaques contre les GAFAM viennent un peu de partout, du camp démocrate, mais aussi du camp républicain, et en particulier du président lui-même.
Je pense que Google, Twitter et Facebook avancent vraiment sur un terrain dangereux et qu'ils doivent faire attention. Ce n'est pas juste pour une grande partie de la population.
Voilà, Donald Trump donc qui met en garde Google, Twitter et autres Facebook contre ce qu'il estime être un manque d'impartialité, leur conseillant de faire attention. C'était fin août de cette année. Et effectivement, il reproche à ces nouveaux acteurs de ne pas respecter la liberté d'expression, de censurer les contenus conservateurs qui lui sont favorables. Il avait même annoncé que son secrétaire de la justice, Jeff Sessions, allait plancher sur cette question. Mais depuis, le fameux Jeff Sessions a été remercié. On va retrouver une nouvelle invitée, Divina Fromex. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle en sciences de l'information et de la communication. Hier, il y a plusieurs médias américains, dont le Washington Post et le New York Times, qui ont publié un certain nombre de détails sur les enquêtes et sur la manière dont la Russie a bel et bien pesé sur la victoire de Donald Trump à la présidentielle de 2016, notamment comment les internautes afro-américains ont été principalement visés en essayant de les détourner des urnes. Mais lors de la campagne des présidents, de la campagne pour la présidentielle, Divina Fromex, on avait plutôt dit justement que les réseaux sociaux avaient été favorables, alors sans forcément le vouloir, mais en tout cas favorable au candidat républicain. Et là, voilà que Trump nous dit et accuse les GAFAM en disant qu'ils lui sont défavorables, au point de confier justement à son ministre de la Justice la tâche d'étudier comment remettre un peu de neutralité dans tout ça. Cette accusation, est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce qu'en effet, on peut dire que l'utilisation des GAFA peut être défavorable parfois au président américain?
C'est très compliqué. Alors c'est vrai que il y a deux choses. Il y a ce que les GAFAM ont fait en masse et ils sont de ce côté-là sans doute, ils étaient plus favorables à Hillary Clinton. Et puis après, ce que certains achats par certains groupes comme l'IRA, certains achats de pages publicitaires et de messages associés ont pu faire sur des groupes extrêmement ciblés. Mmh. Et sur les réseaux sociaux, on peut faire les deux. Et donc, la position de Trump est une position habituelle. Hein. Il souffle à la fois le chaud et le froid. Il se sert lui-même beaucoup de certains réseaux sociaux. Et par ailleurs, il fait des intimidations pour les obliger à se calmer ou à modifier un peu leur algorithme. D'ailleurs, ce qui est sans doute un peu arrivé, en tout cas, ils font attention désormais à ne pas trop attaquer autant les républicains.
Mais quel outil il a en main, Divina Fromex, Donald Trump en particulier, après on verra du côté démocrate, mais quel outil il a en main justement pour introduire un peu de neutralité dans un pays où, on le sait évidemment, la liberté d'expression est quasi intouchable?
Oui, ben justement, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est un peu un coup de bluff, hein, parce qu'il pourrait faire passer ça par décret. Mais je ne pense pas qu'il pourrait attaquer en disant je passe un décret contre ces GAFAM pour impartialité. La seule stratégie un peu acceptable qu'il pourrait avoir, ce serait un décret ou une enquête antitrust, c'est-à-dire essayer de casser leur puissance, hein, en arrêtant leur amplification, etc., etc. Mais dans les deux cas, il sera accusé de vouloir censurer les contenus et les plateformes, ouais. Et donc ça ne passera pas.
Surtout qu'il y a déjà eu des initiatives. Il y a déjà eu des initiatives des autorités américaines pour essayer justement de s'en prendre à la question de la concurrence. Le Federal Trade Commission avait abandonné les poursuites.
Mmh. Oui, la FTC a essayé. C'est elle, hein, qui est l'autorité, on va dire, pour ce genre d'intervention. Mais à chaque fois, Google, notamment, qui était le premier visé, hein, a pu prouver qu'il n'était pas en position dominante, hein, et donc a fait reculer ce qui risque d'arriver, hein, puisque d'autres initiatives commencent à être prises, c'est-à-dire au moins de le stopper dans ses acquisitions, dans des acquisitions supplémentaires qui viendraient renforcer sa position dominante sur le marché.
Alors, il y a l'outil que vous décriviez du décret présidentiel. Regardons ce qu'il y a du côté de la Chambre des représentants. Vous n'êtes pas sans savoir qu'évidemment, ce sont les démocrates qui finalement ont pris cette Chambre des représentants lors des derniers midterms. Or, du côté démocrate aussi, la fronde gronde. Il y a un certain nombre d'élus qui dénoncent depuis très longtemps les pratiques des géants du numérique. Je pense à Bernie Sanders, par exemple, ou encore à Elizabeth Warren. Mais depuis, cette colère, elle s'étend et on a l'impression que l'ensemble du camp démocrate aujourd'hui est vent debout aussi contre ces GAFAM. D'autant qu'il y a de nouveaux éléments qui sont venus nourrir un peu ces critiques. Il y a un nouveau scandale impliquant Facebook avec la révélation sur le recours d'une officine républicaine pour disséminer de fausses accusations sur George Soros. Il y a aussi les subventions accordées à Amazon pour son nouveau QG près de New York et qui va lui permettre de recevoir des millions de dollars de subventions. Est-ce que la victoire démocrate aux midterms peut changer la donne? Est-ce que les élus démocrates peuvent lancer des nouvelles offensives pour briser un peu cette domination des GAFAM?
Alors, ils vont certainement essayer de le faire, hein, et bien entendu, le sentiment qu'on leur a volé l'élection avec le scandale Cambridge Analytica et surtout IRA, hein, va les mobiliser encore plus, même s'ils sont en fait très libéraux aussi de manière commerciale. Hein. Donc je pense qu'ils vont effectivement essayer. Ils vont être paradoxalement, je pense, aidés par les GAFAM eux-mêmes, qui en ce moment se sentent menacés, non pas par tant leur les démocrates ou autres, que par le fait que la Californie ait passé une loi sur la consommation et les données personnelles. Et là, les GAFAM qui avaient réussi à bloquer toute entreprise de législation et de régulation se retrouvent dans la position paradoxale de commencer à en demander pour ne pas se retrouver dans une situation extrêmement hétérogène où chaque État américain pourrait passer sa propre loi et ils se retrouveraient donc avec parfois des États très libéraux, très souples, d'autres beaucoup plus exigeants. Qui ne viendraient pas arranger leur modèle d'affaires.
Oui, donc il y a cet outil qui est là, qui est s'attaquer à la question de la protection des données personnelles, qui est un outil qui est possible. Il y a un autre domaine où on peut peut-être agir, c'est s'en prendre directement au modèle économique des GAFA. Par exemple, Donald Trump avait incité la Poste américaine à relever ses tarifs jugés trop favorables à Amazon, qui est évidemment un très gros client pour son service d'envoi de colis. Ça, c'est des moyens d'action aussi qui peuvent être efficaces. C'est de nature peut-être à faire plier les GAFAM.
Oui, c'est-à-dire que pour faire plier les GAFAM, il faut des arguments commerciaux et des arguments libéraux, au sens libéraux économiques. Donc c'est surtout en touchant leur modèle d'affaires que cela peut agir. Leur modèle d'affaires, là, il est quand même un petit peu gêné, entravé par le RGPD, même s'ils sont en train de se protéger, évidemment, et de se renforcer en interne. C'est surtout, je pense, du côté des États et des réactions des États, notamment de la Californie, qu'il va falloir regarder, parce que c'est effectivement la protection des données qui peut modifier le modèle d'affaires de Facebook, notamment, et de Google, hein, qui tous les deux dominent justement l'univers de la presse, entre autres, hein, dans la mesure où ils ont les deux plus grosses régies publicitaires de la planète.
Merci beaucoup, Divina Fromex, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle pour les auditeurs que vous êtes co-auteur avec Alain Kiyandou de La diversité culturelle à l'ère du numérique, glossaire critique qui est paru à la Documentation française. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Franck Rebillard, fin novembre, Mark Zuckerberg a été convoqué devant le Parlement britannique et il a brillé par son absence. Lors de cette réunion, il y avait en plus des parlementaires britanniques, un certain nombre de représentants d'autres pays. Alors voilà, on a encore le téléphone qu'on va pouvoir sortir de l'antenne. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc je disais que dans cette réunion, en plus des Britanniques, il y avait également des représentants d'autres pays, dont la France, le Canada, l'Argentine et le Brésil, et qui avaient très envie d'entendre Zuckerberg sur les pratiques un peu douteuses de son entreprise. Aux États-Unis, Zuckerberg, on a l'impression, est un peu disposé à assumer un certain nombre de responsabilités en matière de lutte contre les fake news. Franck Rebillard, on a l'impression quand même qu'à l'extérieur des États-Unis, c'est une autre affaire et qu'au-delà des beaux discours, on reste dans une, globalement, hein, dans une stratégie de l'évitement. Est-ce que c'est votre point de vue, votre sentiment aussi, Franck Rebillard?
Complètement, mais en même temps, je pense que désormais, il y a, y a quand même une pression de la population qui est beaucoup plus forte que par le passé. Je pense qu'on a passé un stade avec cette fameuse année 2016 et les événements du Brexit en Grande-Bretagne et de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, qui ont fait prendre conscience aux personnes que finalement les technologies n'étaient pas neutres, que se connecter à Facebook pour voir ce que racontent ses amis, il y avait une intermédiation qui filtrait un certain nombre de messages, qui en mettait d'autres en avant, que lorsqu'on tape une requête dans Google, les résultats du moteur de recherche s'affichent selon un ordre qui est hiérarchisé et que c'est hiérarchisé et programmé en quelque sorte par l'entreprise Google. Je pense que par exemple toute cette question autour du pouvoir des algorithmes qui se posait uniquement dans les milieux universitaires il y a encore quelques années, aujourd'hui, elle est sur la place publique. Et du même coup, je pense que les dirigeants de ces grandes entreprises ne peuvent plus éviter en quelque sorte la mise en accusation de façon plus générale.
Alors il y a eu cette prise de conscience de l'opinion, mais Nikos Smirnaios, est-ce que réellement cette prise de conscience, elle a également eu lieu du côté des acteurs et en particulier de Facebook qui est évidemment en première ligne de mire. Il y avait eu évidemment toutes ces affaires autour des élections, de l'élection présidentielle américaine de 2016. Il y avait eu aussi et donc toute cette campagne d'ingérence de la Russie dans tout cela. Il y avait eu un peu la même chose pour le Brexit. Est-ce que Facebook a réellement pris conscience de tout ça et est disposé à faire des efforts pour effectivement lutter contre les fake news?
Alors, la première chose qu'on peut dire pour répondre à votre question, c'est qu'effectivement, il y a un changement de paradigme de la part de ces acteurs. Ces acteurs se situaient dans ce que notre collègue Benjamin Lovelac appelait le libéralisme informationnel, c'est-à-dire une idéologie dans laquelle ils insistaient sur le fait qu'ils étaient juste des intermédiaires, qu'ils n'avaient pas à moduler le contenu, qu'ils n'avaient pas à modérer, etc. Donc ils refusaient, si vous voulez, toute intervention dans le contenu qui circule par les biais de leurs canaux. Et on est passé aujourd'hui à une autre position, qui est une position en fait des négociations politiques pour faire face aux pressions qu'ils reçoivent. Et d'ailleurs, on peut observer qu'ils vont très loin. Par exemple, Google, qui a refusé pendant longtemps de travailler en Chine, parce qu'en Chine, l'Internet, il est complètement censuré par l'État, planche aujourd'hui sur un moteur de recherche qui intégrerait la censure de l'État chinois. Donc on voit bien que leur position a changé beaucoup. Après, sur est-ce qu'ils sont sincères dans leurs efforts? Je ne le pense pas. On a un exemple aujourd'hui, un article qui est sorti dans le Guardian, où un certain nombre de journalistes qui avaient créé des partenariats avec Facebook, justement pour lutter contre la désinformation, ont démissionné, ont lâché l'affaire, en disant Facebook n'y croit pas vraiment. Et en fait, on s'aperçoit que très souvent les efforts soi-disant consentis par ces acteurs au service de l'intérêt général, c'est plutôt des moyens de faire des relations publiques plutôt que des véritables efforts, parce que ces acteurs, si vous voulez, c'est des acteurs financiarisés et leur principal objectif, c'est de protéger leur chiffre d'affaires, leurs profits et les dividendes de leurs actionnaires. Ce n'est pas du tout de défendre l'intérêt général. Et un autre point, si vous voulez, qui est important, je pense, à ces niveaux-là, c'est le rôle des États. Ça c'est aussi un problème. C'est-à-dire, qui c'est qui va réguler les GAFAM? Ce sont les gouvernements. Est-ce que les gouvernements aujourd'hui vont tenter de réguler les GAFAM pour protéger l'intérêt général ou pour protéger leurs propres intérêts? C'est une question qui mérite d'être posée, je pense. Et je prendrai comme exemple la loi contre les fake news qui a été votée par le Parlement français, contre l'avis de tous les partis intéressés. Les spécialistes que nous sommes, les experts, les scientifiques, y compris les syndicats des journalistes, ont été contre cette loi. Or, le gouvernement l'a votée. Donc c'est une loi qui permet en période électorale, par les biais de l'intervention de la justice, de retirer un certain nombre d'informations des plateformes. Est-ce que cette loi ne va pas donner lieu à des abus? Est-ce que c'est pas une contrainte contre la liberté d'expression? Quels sont les effets que ça va avoir sur les débats publics? Ce sont des questions ouvertes. Ce qu'on sait par contre, c'est que les acteurs politiques pourront utiliser cette loi de manière à retirer des contenus qui les gênent. Donc on voit bien que là, on est dans un champ de bataille politique finalement. Ces acteurs constituent les terrains de lutte politique. politique d'aujourd'hui.
Je vais interroger Franck Rebière justement sur cette loi contre les fake news votée ici en France, mais j'indique quand même pour nos auditeurs que ce à quoi vous faites référence, ce sont les propos en particulier de Brooke Binkowski, qui est la rédactrice en chef de Snopes et qui effectivement avait accepté un partenariat avec Facebook pour apporter son concours dans le domaine de la vérification d'informations. Et effectivement, très récemment, elle a donné une interview au Guardian dans laquelle elle déclare, je la cite, « Ils se moquent complètement de notre travail. Facebook nous a essentiellement utilisé pour donner une bonne image de soi-même en temps de crise. » Et elle poursuit, « J'ai rapidement compris que Facebook voulait donner l'impression de faire la chasse aux fake news tout en ne faisant absolument rien pour y arriver. » Donc on voit que le bilan, en tout cas de son point de vue, à Brooke Binkowski est extrêmement maigre et montre bien, Franck Rebière, qu'en réalité, Facebook n'a absolument pas l'intention de faire quoi que ce soit pour lutter contre les fake news. Et alors du coup, que peuvent nos États? Effectivement, Nikos Myrnaios nous dit la loi votée en France ne va pas dans le bon sens. Vous êtes d'accord avec lui?
Alors moi, je voudrais recadrer ça de façon plus générale, en fait, cette question des fake news, parce que on essaye de traiter la maladie une fois qu'elle s'est déclarée, en quelque sorte. Mais à mon avis, il faudrait plutôt agir de façon préventive. Et ça revient à assurer un financement de la création journalistique qui soit de plus grande qualité. Et aujourd'hui, la captation des recettes publicitaires qui sont générées par l'information, elle est essentiellement le fait de ces GAFAM. Et le problème, c'est que ces recettes-là ne sont pas redistribuées en amont de la filière vers les entreprises de presse, vers les entreprises de médias, vers les journalistes. C'est ça le fond du problème. Hein, si on regarde un petit peu la situation...
Depuis... Attendez, c'est intéressant ça, permettez-moi de vous couper, mais est-ce que le fond du problème, il n'est pas autre part? Est-ce que finalement, on n'essaye pas de ponctionner de l'argent où il y en a, dans un secteur qui va très bien, à savoir les GAFAM, pour le mettre dans un secteur qui va pas bien, c'est-à-dire le secteur des médias? Au fond, on pourrait poser la question autrement. On pourrait dire qu'aujourd'hui, avec l'émergence du numérique, les médias, en général, n'ont toujours pas trouvé le modèle économique qui leur permet effectivement de faire face à cette émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication. On pourrait poser la question dans l'autre sens.
Alors, c'est vrai. Alors, même s'il faut un peu nuancer ce propos, hein, parce que par exemple, il y a des médias qui, en France, hein, arrivent maintenant à générer des profits grâce au numérique. Je pense à Mediapart, hein, qui est bénéficiaire.
Mediapart n'a pas besoin de l'argent des GAFAM.
Tout à fait. Au monde.fr. qui lui aussi génère des profits grâce à son édition numérique, etc. Mais c'est vrai que pour l'ensemble des médias, il y a une situation de difficulté. Bon, c'était juste pour nuancer le propos.
Non, mais précisément, c'est intéressant parce que vous citez des médias qui ne sont pas dépendants des GAFAM au point d'avoir besoin qu'on leur reverse des droits.
Et surtout qui ont continué à conserver en fait les deux sources de revenus qui sont celles de la presse écrite, à la fois les recettes en provenance des annonceurs, mais les recettes aussi en provenance des lecteurs. Hein, Mediapart fonctionne par abonnement. Et puis, pour lemonde.fr, désormais aussi, les revenus qui sont générés par les abonnements électroniques sont tout à fait substantiels et comptent très très largement dans l'ensemble des revenus du monde. En revanche, la deuxième source de revenus, donc celle de la publicité, elle s'est complètement tarie. Alors, pour deux raisons. À la fois... parce que effectivement, il y a d'autres acteurs qui profitent en quelque sorte de l'information qui circule et pour finalement en retirer des revenus publicitaires, mais aussi, et ça c'est peut-être un peu complexe à expliquer à certains auditeurs, mais je pense que ça vaut le coup qu'on prenne une minute, c'est aussi parce que le mode de commercialisation de la publicité en ligne a aussi évolué. Maintenant, il repose sur ce qu'on appelle la publicité programmatique, c'est-à-dire que désormais, en temps réel, en fait, comme sur une place de marché publicitaire, avec des logiciels, avec des programmes, les transactions entre annonceurs et éditeurs se mettent en place. Et qui sont finalement les acteurs qui sont les mieux armés pour et les mieux équipés technologiquement en termes de savoir-faire pour gérer ces transactions publicitaires, ce sont les GAFAM dans bien des cas.
On arrive bientôt au terme de cette émission, mais Nikos Smirnaios, peut-être un propos un peu global pour finir cette émission. Facebook, on en a beaucoup parlé, a traversé peut-être l'une des crises les plus graves cette année de son histoire, avec les conséquences du scandale Cambridge Analytica qu'on a évoqué, les autorités américaines qui exigent d'entendre Zuckerberg, même chose du Parlement européen, une entreprise qui a perdu beaucoup de valorisation boursière. Est-ce que 2018 marquera une rupture pour Facebook? Est-ce que après des années de pain blanc, les choses risquent désormais de se corser?
Non, je ne le pense pas.
Vous ne le pensez pas, pas. Ouais.
Facebook, si vous voulez, ce n'est pas que Facebook. Hein. Facebook, c'est Instagram, Facebook, c'est WhatsApp, Facebook, c'est plein d'autres entreprises. Et tous les GAFAM, en fait, c'est des acteurs très concentrés qui disposent de plusieurs services et qui se positionnent également dans différentes couches, on va dire, de l'Internet qui vont au-delà des services, qui peuvent aller du système d'exploitation jusqu'au matériel, jusqu'au réseau. Donc, ils ont une emprise aujourd'hui qui me paraît très difficilement, déstabilisable. Si je peux le dire comme ça. Juste pour revenir à la question précédente, parce qu'il me semble que c'est un point très important.
Une minute, on arrive presque au terme de l'émission. Mais une minute, je vous en prie.
Le modèle publicitaire me semble être aussi à l'origine de beaucoup de mots du journalisme actuel. Le modèle publicitaire, c'est un classique, ça a été démontré déjà pour la télévision. C'est un modèle qui vise à satisfaire le plus grand nombre, à maximiser l'audience. Et donc, la qualité de l'information arrive en seconde place. Or, l'emprise des acteurs comme les GAFAM sur les canaux de diffusion pousse tous les médias à diffuser de l'information gratuitement et à dépendre de la publicité. Et donc cette hétéronomie-là est aussi un problème journalistique important. Et il me semble qu'il faut toujours rappeler que l'information a un coût, l'information de qualité a un coût, et il faut que les citoyens et que les gens qui nous écoutent comprennent que la meilleure façon de garantir la qualité de l'information, c'est de payer son coût de production.
Et on a oublié ça, Franck Rebillard, l'information c'est un coût. Il a raison de le rappeler, c'est central.
Tout à fait, je partage complètement ce qui vient d'être dit.
Mais c'est pas une évidence pour tout le monde malheureusement. Il faut le redire. Merci beaucoup. Deux invités, Franck Rebillard, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes co-auteur de Média, Culture et Numérique qui était paru chez Armand Collin. Un grand merci également à Nico Smirnaios qui était avec nous. Je rappellerai vous concernant les GAFAM contre Internet, une économie politique du numérique qui était paru aux éditions INA. Et j'en profite pour remercier également les techniciens qui ont permis de faire le duplex. C'est avec Delgado Jones et The Brotherhood. On se quitte tout de suite. Social Network Song, hein, c'est évidemment choisi pas tout à fait au hasard.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et ce matin, vous nous proposez deux points de vue divergents, sur notre crise des gilets jaunes, Brice.
Oui, celui de Richard Haass, un ancien assistant spécial du président George Bush et qui est l'actuel président du Council on Foreign Relations. C'est un think tank américain, comme vous l'avez deviné. Et celui de Nathalie Nougered, qui est l'ancienne directrice du Monde et qui est devenue, à Londres, éditorialiste au Guardian, le grand quotidien de gauche britannique. Pour Haass, il s'agit d'un populisme de gauche venu d'un groupe social qui a des difficultés à boucler ses fins de mois. C'est donc différent, poursuit-il, d'autres vagues populistes qui traversent l'Europe et qui sont, elles, plutôt axées sur une défense nationale culturelle. En Hongrie ou en Italie, il s'agit d'immigration. En France, plutôt du refus de nouvelles taxes dans un pays déjà lourdement imposé, même si c'est au nom de l'écologie. Un son de cloche assez différent sous la plume de Nathalie Nougered. Les scènes auxquelles on a assisté en France, écrit-elle ces dernières semaines, peuvent rappeler à certains comme un revival du soulèvement de mai 68, mais un parallèle plus pertinent, c'est peut-être avec le 6 février 1934. Ce jour-là, les ligues nationalistes d'extrême droite défilèrent dans la capitale et s'attaquèrent à la police avec une violence qui fit 15 morts. Les événements de ce 6 février ont servi, dit-elle, de mythe fondateur à toute une génération de militants d'extrême droite. Or, les inquiétudes françaises ont trois causes, poursuit-elle. La peur de perdre du pouvoir et du prestige dans le monde, la peur des conséquences économiques et sociales de la mondialisation et la peur de voir s'effilocher l'identité nationale. Cette crise met en conflit, comme dans les autres démocraties, les urbains et les ruraux, les qualifiés et les non-qualifiés, les salariés et les chômeurs, les jeunes et les vieux. Mais elle prend une dimension particulière en France en raison de l'idéal égalitariste qui est à la base de la République. Pour le salut de l'Europe, Emmanuel Macron a besoin d'aide, écrit-elle, et non pas de notre mépris ou de notre haine. Il se trouve, je la cite encore, à la barre d'une France qui est en train de redevenir très vite l'homme malade de l'Europe. Depuis les plus durs des brexiteurs, de droite comme de gauche, jusqu'à l'homme fort d'extrême droite italien Matteo Salvini, sans parler des médias de propagande de Poutine, on se délecte. L'agitation et le chaos dans les démocraties libérales, c'est bien ce dont ils profitent. Leur but commun, c'est la prise du pouvoir par les extrémistes au Parlement européen en juin. Les événements en France sont inquiétants et leur signification s'étend bien au-delà des frontières du pays. Car si les passions tristes contre lesquelles Macron met en garde ses compatriotes prenaient le dessus, c'est tout le continent européen qui en serait affecté et non pas sa seule carrière à lui. Fin de citation.
Et alors, quel est l'état, Brice, de l'Union européenne 6 mois maintenant avant les élections au Parlement européen?
Sur ce point, l'éditorialiste du Guardian et le président du Council on Foreign Relations sont d'accord. L'état de l'Europe est très inquiétant. L'Union européenne, qui croyait pouvoir offrir au monde entier un modèle de paix, de stabilité politique, de prospérité, cette union est dans un état désastreux. Il y a un Brexit qui apparaît ingérable, des États centre-européens qui embrassent l'un après l'autre les thèses douteuses de la démocratie illibérale de Poutine, des irrédentismes régionaux qui déchirent certains pays, une Italie dirigée par une coalition populiste, droite-gauche, hétéroclite, qui fonce dans le mur de la dette et de la faillite. Non, non, décidément, l'Europe ne fait pas envie. Mais plus grave, souligne Richard Haass, à force de produire des normes, des règles et des contraintes, la bureaucratie bruxelloise est en train de faire perdre à l'Union européenne son attrait auprès de ses propres citoyens. Mais les dirigeants des États membres devraient assumer leur part de responsabilité dans cette catastrophe politique. Ils n'ont pas voulu aller jusqu'au bout de ce que signifiait la monnaie commune. Sans politique fiscale, sans union bancaire, l'euro demeure bancal et inachevé, à la merci d'une prochaine crise qui commençait et probablement prévue pour 2022. Alors justement, la semaine dernière à Bruxelles, Macron a remporté une demi-victoire, un demi-succès qui est passé totalement inaperçu en France pour cause de gilets jaunes. Les 19 ministres des Finances ont, comme on dit dans leur jargon, acté la création d'un budget spécifique de la zone euro pour lequel notre président de la République livrait bataille depuis son élection. On sait, Merkel se tâtait, l'Allemagne a donné enfin son feu vert. Alors on peut se réjouir, oui, mais à moitié, comme face à tout ce qui nous arrive de l'Union européenne, puisque le mécanisme de stabilisation de nos économies en cas de crise, que réclamait Macron à grands cris depuis longtemps, lui, il n'est pas prévu. Il n'y aura donc pas de FMI européen, pour une raison évidente. Les pays du Nord, dont l'Allemagne, ne veulent rien de ce qui pourrait impliquer des mécanismes de transfert. L'euro reste donc, comme on dit encore, bancal et inachevé.
Oui, et puis Brice, vous oubliez de dire que ce budget spécifique de la zone euro, il n'est pas tout à fait celui qu'espérait Emmanuel Macron quand il l'avait. Oui, mais ça sera certainement pas plusieurs points de PIB comme il l'avait dit en septembre 2017 à la Sorbonne.
Mais on verra son montant après les élections du Parlement européen.
Merci beaucoup, cher Brice. On vous retrouve demain. On peut évidemment réécouter votre chronique sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.